Un pamphlet par Roger de Beauvoir. L'autocratie de la presse est aujourd'hui reconnue. À l'époque de Louis XVIII, elle l'était moins. La presse n'existait pour ainsi dire que d'une vie factice. Elle écrivait sous le manteau et n'osait se montrer au grand soleil. C'est une chose triste à dire, mais la presse de ces temps-là se tourna toujours vers le pouvoir chaque fois qu'elle lui découvrit un caprice. Elle mendia ses faveurs et caressa ses envies. La presse d'alors, il est vrai, ignorait elle-même sa force, ou plutôt n'en avait aucune. Elle en était encore à la polémique de Voltaire, aux calomnies, aux mensonges. À part quelques consciences inaccessibles et rigoureuses, la presse était devenue l'instrument des basses flatteries. Elle dénaturait tout en faveur de sa thèse du jour, ne se croyant pas appelée aux destinées qu'elle a conquises aujourd'hui. Gênée par la censure et la majorité des journaux ministériels, elle se réfugiait dans le petit scandale In 18 et la biographie In 12 comme dans un fort inexpugnable. C'est ainsi que la pensée, une fois frappée d'interdiction et privée de la discussion des intérêts publics, se replie comme un serpent blessé sur les fortunes et les gloires individuelles. L'histoire qui suit en est la preuve. Un charmant jeune homme, que je ne veux désigner que par le nom de Roger R., partit de Caen vers 1823 pour venir gaiement passer l'hiver à Paris. Il était vicomte. Son père avait servi sous l'Empire et était mort. Sa mère avait vu les fêtes du directoire et y avait brillé à peu près autant que Madame Tallien, Récamier, etc., etc. Georges R. avait 23 ans. Il arrivait jeune, beau et riche, dans une capitale où la dernière de ses qualités suffit, mais où les deux premières ne gâtent rien. Il aimait le jeu et le plaisir. Il aimait toutes les femmes sans préférence et changeait de maîtresse comme d'habit. Cela sentait son Elleviou d'une lieue, mais le parfum d'Elleviou et de l'opéra comique durait encore. Mais une chose que Georges aimait plus que tout cela, c'était sa mère. Éloigné d'elle par sa volonté, il l'adorait encore davantage. Le premier soin de Georges, en débarquant à Paris, fut de se choisir un appartement rue d'Artois. Il s'y installa avec un de ses amis, M. Berthoin, reçu depuis peu dans sa famille, mais qui s'y trouvait considéré. M. Berthoin, homme d'une cinquantaine d'années, n'a qu'une malheureuse passion, celle des animaux du jardin des plantes. Il est dévoré, consumé de l'amour frénétique des panthères, lions, tigres, girafes, et de tout ce qui compose le domaine intéressant des quadrupèdes. Aussi hardi que Martin, on le voit s'approcher des cages de léopards. Il essaye sur eux le magnétisme de son œil blanc. Il les domine, les captive. M. Berthoin correspond avec MM. Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire. Il a des autographes de Martin et est l'auteur d'un poème en 12 chants intitulé « L'athlète » ou « Milon de Crotone ». Ce poème attend toujours un éditeur et il espère en trouver un grâce à la protection opulente de Georges. Georges a permis à M. Berthoin de vivre sous le même toit que lui, comme cela se dit dans les vaudevilles, quoique souvent les corps de logis soient séparés. Il a pour ce bonhomme une vénération particulière. M. Berthoin doit lui montrer d'ailleurs la botanique. Georges mange avec lui dans sa belle salle à manger ornée de Desportes, de Joseph Vernet, de Chardin, car Georges s'est meublé comme on ne l'est plus. Il déjeune, dîne et soupe aussi régulièrement que Lucullus, ce qui plaît beaucoup à M. Berthoin, ami de la régularité. Chaque fois que M. Berthoin ne déjeune pas avec la girafe, il honore de son appétit et de sa redingote olive la salle à manger de Georges. Ce jour-là, M. Berthoin arrive comme d'ordinaire, mais plus pâle qu'il ne le fut jamais, même à la nouvelle de la coqueluche survenue au Tigre en 1815. « Bonjour, M. Berthoin, » dit le jeune homme qui a déjà la serviette sous le menton. « Bonjour, mon cher Georges, je vous demande pardon de mon retard, j'étais allé... Ne vous excusez pas. Vous étiez allé voir Orang-Outan, Simia Troglodytes, comme dit Linné, n'est-ce pas? Il ne faut pas vous cacher de ces choses-là, M. Berthoin. » « Je ne saurais vous dire à quel point j'ai chaud, Monsieur Georges. » Et M. Berthoin se versa un verre de madère, comme pour se donner des forces. « En vérité, M. Berthoin, je ne veux pas que vous parliez. Mangez d'abord. Cette visite à l'orang-outan vous a ému. Diable de savant, ils se mettent en nage pour la science. Jean, dit-il au valet de chambre, fermez la fenêtre. Monsieur Berthoin, une aile de perdreau. Vous êtes bien bon. Je n'ai pas aussi faim aujourd'hui que d'habitude. » Serait-il arrivé malheur à l'éléphant? Je ne pense pas. Au lion, il va très bien. c'est donc à M. Geoffroy Saint-Hilaire. Il continue à se bien porter, pour la plus grande gloire des monstres et de l'Institut. À propos, je ne vous tiens pas quitte de ma carte d'admission, mon très savant professeur. Je connais une jolie dame qui désire avoir un quart d'heure de conversation intime avec la girafe. Il fait beau temps, je vais faire atteler et lui conduire aujourd'hui même. Donnez-moi ma carte ou la vôtre. » M. Bertoin fouilla dans sa poche pour en tirer la carte. Mais il s'en échappa un petit livret à couverture de papier gris qu'il voulut saisir rapidement. Georges le prévint. « Par pitié, Monsieur Georges, rendez-moi cette brochure !» dit M. Bertoin en se levant. « Ce sont des observations d'histoire naturelle. »« Charmant, » dit Georges, « cela m'instruira. » Et il commença à feuilleter les premières pages du livre. « Mais c'est un pamphlet !» s'écria-t-il. « Voyez donc comment on y traite l'excellente duchesse de... Pardieu, cela commence à m'amuser. Par amitié pour moi, ne lisez pas, Monsieur Georges. Je ne sais comment ce petit album se trouve dans ma poche, jetez-le par la fenêtre. Vous appelez ça un album, mais on y attaque tout le monde. » Le professeur voulut encore une fois le lui arracher des mains, mais il rencontra dans le mouvement de Georges une résistance si prononcée qu'il en éprouva un véritable frémissement. Les yeux du jeune homme demeuraient ardemment cloués sur une des pages du livre, comme dans quelque duel à mort l'œil de l'adversaire sur l'homme qu'il va tuer. Sa main crispée, convulsive, froissa bientôt la page à l'arracher. M. Bertoin eut peur. « Pardon, pardon, M. Georges, » dit-il en joignant les mains. « J'ai trouvé cela sur les quais, près de l'Hôtel Dieu, je crois. Cette odieuse page m'avait fait tressaillir comme vous, mais il m'était impossible de ne pas acheter le livre, ne fût-ce que pour le brûler, sans vous le faire connaître. » « Oh, vous avez bien fait, Monsieur Bertoin, vous avez bien fait. Depuis que je suis à Paris, j'avais perdu mon temps. Maintenant, j'aurai quelque chose d'utile à faire. » Disant ainsi, il se dirigea vers sa boîte à pistolets. Tout d'un coup, il s'arrêta. « Que vais-je faire, mon Dieu? Que vais-je faire? Où trouver cet homme qui déshonore ainsi ma mère, en l'assimilant presque à une comédienne ou à une fille d'opéra? Oh, je le trouverai. Sortons. Venez avec moi, Monsieur Bertoin. » Tous deux prirent un cabriolet de place, et Georges cria au cocher d'aller tout droit devant lui. Les cochers de Paris sont habitués à tous les caprices. Celui-ci ne comprenait pas, mais il n'en fouetta pas moins ses chevaux. Georges proférait de temps à autre des mots sans suite, comme les gens qu'une passion violente secoue. M. Bertoin demeurait aussi atterré que le jeune homme. Le pamphlet devait être d'un journaliste. Ce fut la première idée qui se présenta à l'esprit de Georges. Georges s'en alla donc d'abord rendre visite au chef de chaque journal, ensuite à leurs rédacteurs les plus influents. Il était assisté de M. Bertoin dans chacune de ses visites, qui ne ressemblaient pas mal à des visites domiciliaires. À peine employait-il les formules d'usage, tant il était pressé d'en finir. Vous eussiez cru voir un commissaire de police procédant à un interrogatoire. Ce que le malheureux rencontra d'infirmité morale dans cette course haletante, dans chacune de ses visites sans résultat, ne saurait s'écrire. Le métier de journaliste, que des gens de cœur et de conduite élèvent jusqu'à la dignité d'un sacerdoce, lui parut la plus hideuse chose du monde. Il trouva la médiocrité et le vice encombrant ses avenues. Quelques exceptions honorables, quelques vertus rigides, éprouvées, à l'abri de la corruption et de l'or, auraient pu le faire revenir de son opinion. Mais il était sous la domination de la colère. Il n'écoutait rien et marchait. Il lui fallait le sang du lâche qui avait osé flétrir sa mère. Sa mère, qui vivait en province et qui ignorait cette odieuse calomnie. Il chercha de la sorte pendant 6 jours, remuant tous les égouts. C'était là une volonté ferme et courageuse. Un homme qui frapperait aux portes d'un bagne pour y vivre une heure de la vie du forçat n'aurait pas plus de rebut à supporter. M. Bertoin paraissait apporter un intérêt des plus vifs à ses investigations. Il accompagnait Georges partout. Ce vieillard avait épousé la colère du jeune homme. Loin de la calmer, il l'excitait. « N'allez pas croire, lui écrivait-il, que j'enchaînerai votre bras, mon cher Georges. Un pamphlet ne mérite que du mépris. Mais celui-ci est un pamphlet contre votre mère, et non contre vous. Songez-y bien. » Et il lui indiqua alors certains noms, des réputations jeunes ou vieilles, des plumes nobles ou obscures qui pouvaient avoir trempé dans ce fiel, laissaient cette page debout. Georges s'épuisait en lettres, en recherches, en visites. Il alla jusqu'à s'accouder dans d'obscurs cafés. Il essuya l'huile de toutes les coulisses. Ils furent à partout sans rien trouver. L'écrit anonyme était daté de 1815. La jeune presse ne pouvait guère en être responsable. Cependant, il y a des gens qui débutent de bonne heure dans le chemin glissant du scandale. Il y a des natures perverties même avant la gloire. Georges le savait. Il n'épargna rien, argent, espions, promesses, tout, jusqu'à celle de l'amnistie, cette réconciliation menteuse, qui n'est à rien en pareil cas et dont les coupables ont droit de se défier. Aucun indice ne vint l'aider, aucun vent ne le poussa. Il commença dès lors à désespérer. Un jour, cependant, qu'il avait reçu rendez-vous de M. Bertoin au Jardin des Plantes, à la fin de son cours de botanique, il accrocha, avec l'une des roues de son tilbury, une des bornes de la rue Copeau. Il n'avait guère pris ce chemin que pour échapper au bruit. Le train, frêle et mince, se rompit à la suite de la secousse. Pendant que le groom allait chercher un charron, Georges mit pied à terre devant une petite porte verte, à l'ombre d'un mur au-dessus duquel les pommiers élevaient leurs bouquets blancs, et les acacias, le panache embaumé de leurs épines. Le silence de cet endroit n'était troublé par aucune voix et aucun pas. À la porte pendait une sonnette que la main de Georges agita afin de demander un homme qui voulut tenir son cheval. À la place d'un homme, il se présenta une jeune femme de jolie figure, bien qu'un peu pâle. Elle offrit à Georges de se reposer en attendant le retour de son domestique et ordonna à son jardinier de tenir le cheval. Le premier mouvement de Georges fut de refuser, mais la bonne grâce de cette jeune femme le retint. Il traversa avec elle un joli verger, où les pois du senteur et les jasmins, échauffés par le soleil, secouaient les parfums printaniers de leurs clochettes. La jeune femme le fit passer successivement par une basse-cour tenue dans l'ordre le plus parfait. Une petite laiterie fraîche et propre, et une serre de 6 pieds de long, remplie, malgré sa petitesse, de plantes étiquetées avec le plus grand ordre. Georges oublia son chagrin devant cette paix profonde, cet asile intime, si frais et si retiré. « Mon Dieu ! S'écria-t-il, que le possesseur de ce petit jardin doit être heureux. Modus agri non ita magnus. Je vous demande pardon, madame, de citer Horace. Mais si M. Bertoin était là ? Vous connaissez M. Bertoin, monsieur ? J'ai cet honneur, madame. C'est lui qui me montre le latin et la botanique. Je suis sa femme, monsieur. Vous parlez à Madame Bertoin. » Georges fit un mouvement de surprise. M. Bertoin ne lui avait jamais avoué cette femme et cette maison. Deux choses honnêtes, cependant, mais qu'il pouvait avoir intérêt à cacher. Son regard interrogeait tout l'ensemble de cette jeune femme. Il n'y trouvait rien que de pur et de naïf. Cette découverte le plongea bientôt dans une rêverie dont il ne fut plus le maître. Ne voulant pas la troubler, Madame Bertoin prétexta quelques ordres et se leva. Elle l'avait reçu dans le cabinet même de M. Bertoin. Plusieurs papiers étaient épars sur la table. Ce qui étonna Georges, c'est qu'un certain désordre régnait dans cette chambre. Il contrastait avec la paix et l'ordre de tout le reste. En soulevant machinalement une liasse de papier qui avait l'air d'avoir été feuilletée et bouleversée dans tous les sens cette nuit même, car il y avait encore un bout de chandelle éteinte près du carton, Georges en fit tomber une épreuve sale, tachée d'encre et de ratures. Il ne reconnut pas sans frémissement les phrases de l'injurieuse biographie. Des mots surchargés, des lignes effacées lui fouettaient la rage au cœur. « Enfin !» s'écria Georges. « Enfin, je saurai la vérité !» En ce moment, Madame Bertoin rentrait. Elle s'étonna de l'agitation de Georges. Il était muet de stupeur, l'écume couvrait ses lèvres. « Qu'avez-vous, monsieur ? » lui dit-elle. « Et quel est ce papier que vous tenez là ?»« L'écriture d'un homme infâme, madame. D'un homme qui aura vécu aujourd'hui sa dernière heure. L'écriture de votre mari. » Et en même temps, Georges lui montrait le feuillet qu'il venait de découvrir. La jeune femme ne comprenait pas, mais elle soupçonna encore moins. Pour elle, son mari, c'était la vertu, la probité sur la terre. Elle croyait tout cela un songe, une illusion, et regardait Georges d'un air de doute. Ce jeune homme, conduit chez elle par une fatalité aussi étrange, l'épouvantait. De son côté, Georges comprit bien vite qu'il lui devait plutôt de la compassion que du mépris. Il y a des âmes qui se devinent. Il la prit avec dignité par la main et la fit asseoir dans un fauteuil afin de lui donner le temps de se remettre. Il continua. « Vous m'avez appris, madame, que vous étiez la femme de M. Bertoin. Je souhaite que vous ne soyez pas unis à la fois à un perfide et à un lâche. Je l'attends, je ne sortirai pas. » Elle fit un mouvement.
C'est bien mal payé, je le sais, ce quart d'heure d'hospitalité, reprit-il.
Mais quand un homme a été assez vil pour déshonorer une femme, et que c'est le fils de cette femme qui en demande raison.
N'achevez pas, monsieur, oh, n'achevez pas. Vous ne pouvez ignorer combien les apparences abusent. Mais ce que vous ne pouvez pas savoir encore, ce que je vous déclare à deux genoux et toute tremblante, c'est que j'aime, j'estime mon mari. Mon mari, monsieur, c'est ma vie, c'est mon Dieu.
En ce cas, madame, je vous plains sincèrement. Vivre en communauté avec la honte lorsqu'on est pur, se voir souillé par les préférences du vice, oh, cela doit être affreux. Vous êtes jeune, cet homme vous aura trompé.
Il m'a sauvé, monsieur, sauvé, moi, pauvre jeune fille, quand le malheur étendait sa main sur moi, quand j'allais manquer de pain. Ce vieillard m'a arraché à l'infamie.
Une heure de vertu ne rachète pas une vie de crime. Madame, relevez-vous, ce n'est pas à moi, c'est à Dieu de pardonner.
La porte du salon s'ouvrit alors, et le professeur rentra. Il tenait à la main un dahlia pourpre et l'ouvrage de Lacépède. Son air était riant et reposé comme de coutume. Ses cheveux blancs avaient la couleur de la neige. Il donnait à son front une grande sérénité. Dès que Georges l'entrevit, il ne put cependant se contenir et courut à cet homme la canne levée. L'indignation et la colère l'étouffaient. Misérable ! Il ne put articuler que ce mot. Madame Berthoin avait couru au-devant de Georges. Elle avait détourné le cou, qui brisa un fort beau cadre de papillons.
« À genoux ! » cria Georges. « À genoux, monsieur ! Vous ne pouvez pas me regarder autrement. Sans madame, je vous aurais déjà brisé du pied.
Mais elle a eu raison de retenir mon bras. Vous êtes de ceux dont le contact salit.
À genoux !
Reconnaissez-vous ceci ? »
Georges lui montrait l'épreuve. Monsieur Berthoin s'était mis involontairement à genoux. Il se sentait défaillir sous ce bras de fer.
« Pas devant elle, monsieur, par pitié, pas devant elle. Anna, je vous ordonne de sortir, »
reprit Monsieur Berthoin en essayant de se relever.
« Et moi, madame, je vous ordonne de demeurer. Il est juste que je ne sois pas le seul à entendre cette confession. Elle vous regarde autant que moi.
« Monsieur, vous êtes bien cruel. Vous n'avez pas le droit de la faire assister à ce supplice. »
« Ne m'avez-vous pas fait assister, monsieur, il n'y a pas 15 jours ? Un supplice encore plus inouï d'audace ?
N'avez-vous pas installé l'hypocrisie à ma table, la honte sous mon toit, la calomnie dans ma maison ?
N'avez-vous pas enfin insulté le fils avec la mère ?
Il est bien permis, dès lors, à ma haine de confondre l'épouse avec l'époux. Je vous rejette à la face tous vos opprobres.
Ah, vous avez raison d'être à genoux comme un suppliant, vieillard, mais vous suppliez en vain. Ma jeune haine ne pardonne pas si vite. Vous avez déshonoré ma mère ?
Et il ne tiendrait qu'à moi de déshonorer ici, sous vos yeux, celle que vous nommez votre femme.
Vous avez rendu la lutte inégale entre nous, vous qui n'avez plus de mère, qui portez des cheveux blancs et qui vous retranchez dans l'amour d'une compagne. Vous avez eu l'infamie de croire à votre mensonge. Vous vous êtes imaginé qu'après m'avoir abusé de détour en détour, après m'avoir fait perdre la piste du vrai coupable, Dieu ne me remettrait pas dans le bon chemin, ce Dieu qui conduit tout, même le bras qui se venge. Vous avez cru que votre masque ne tomberait pas, que tous vos jours se suivraient et se ressembleraient à l'avenir, comme ces gouttes de pluie qui tombent encore en ce moment une à une de vos branches. Misérable docteur, vous vous êtes trompé.
Vous avez trop présumé du manteau de la science. Ce manteau n'est pas si ample qu'il cache tout.
Répondez-moi, si vous en avez le courage.
Quelles étaient vos perplexités secrètes en m'accompagnant pour m'égarer ? Quelles poignantes angoisses enduriez-vous en ayant l'air de vous employer à ma vengeance ? Le remords ne vous rongeait-il pas ? Dites-le. Ou bien ce jeu cruel vous plaisait-il comme nouveauté de torture ?
Mais dites-moi donc que vous souffriez, dites-le. Cela peut-être vous sera compté.
Encore une fois, monsieur, il y a quelqu'un de trop ici. Je ne parlerai pas devant elle. Vous ne pouvez, vous ne voulez pas punir une créature si digne de vos respects. Qu'elle parte, monsieur, qu'elle parte. Je parlerai. »
L'accent de vérité et de profond chagrin que M. Berthoin avait mis dans ses paroles empêcha Georges d'insister. Il ouvrit lui-même à la jeune femme la porte d'une salle voisine, et après avoir tourné la clé dans la serrure pour que nul ne vînt les interrompre, il s'en fut droit à M. Berthoin, qui demeurait à genoux.
« Maintenant, monsieur, je vous écoute.
libre à vous de vous relever. Il me suffit que votre femme vous vit la première dans cette posture de coupable. Encore une fois, songez à ne rien me farder de la vérité. »
M. Berthoin, pâle et abattu, appuya sa main pour se relever sur le marbre d'une console. Elle était aussi froide que ce marbre.
« Vous me demandez là, jeune homme, une amère confession. Vous me la demandez quand je n'aurais voulu la faire qu'à Dieu. À qui seul je la devais. N'importe, je vous la ferai. »
Le hasard, ou plutôt la providence, cette impitoyable vengeresse de tout ce qui a un droit, vous a conduit chez moi, dans ma maison même, pour m'y voir agenouillé sur le seuil. Voilà qui doit déjà vous satisfaire. Il y a peu d'hôtes qui reçoivent ainsi, monsieur. Mais nous avons changé de rôle, c'est vous qui êtes mon hôte. Oui, cette maison, je vous la dois. Oui, cette femme qui est la mienne, je la tiens de vous. J'ai fait votre ruine, et vous aviez tout combiné pour mon bonheur. Votre mère, dont je n'oublierai jamais les bienfaits, il ne m'est plus permis de dire les vertus, m'était inconnue lorsque j'écrivis ces lignes. Je ne pouvais guère prévoir que la femme contre qui cette lâche insulte était dirigée, dut un jour, par un retour de la justice divine, m'attirer chez elle, moi, son calomniateur et son bourreau. C'est pourtant ce qui advint. Un parent de la comtesse R, votre mère, le marquis de C, avait ourdi contre elle cette odieuse trame. Un de ces hommes dont l'intrigue fait la vie avait résolu peut-être de la tuer à jamais dans l'opinion, parce qu'elle avait refusé d'employer son crédit pour cette infâme. C'était là, n'est-ce pas, une méprisable vengeance. L'anonyme fut son poignard, mais il fallait l'aiguiser, il fallait le tremper comme un acier qui doit porter coup. Ce fut à moi que cet homme s'adressa. J'étais un misérable manœuvre dans ce temps-là, un marchand de phrases, forgeant sur l'enclume tout ce qui pouvait me faire vivre. Je me mis à sa discrétion, je lui ouvris quand il vint. J'avais assez vécu pour haïr, et jamais mon cœur ne s'était ouvert à l'espoir. La misère en assiégeait les issues. Jeune, on m'avait fait partir pour les îles, où je n'avais puisé que des idées d'ambition et d'indépendance. De retour à Paris, il fallut vivre. Une méprisable facilité, une indifférence profonde d'opinion et de doctrine, me mit bien vite au gage du premier venu. Je ne tardais guère à ressembler à ces écrivains publics dont on dirige la plume. Résolu à vivre de la sorte, au jour le jour, j'atteignis bien vite au succès. Il me flattait d'autant plus qu'il ne m'obligeait à aucune croyance. Je jouais comme l'enfant avec cette arme dangereuse. Je riais le soir avec des amis après de pareilles journées. Comme je m'étais fait une loi de ne rien approfondir, et que l'on ne me mettait pas trop à prix, je ne faisais pas même attention à l'insulte journalière qui me revenait de droit, celle de ne jamais compter mon nom pour rien, pour le prix d'un service ou d'une haine. J'étais un exécuteur, on connaissait ma porte, voilà tout. S'il m'eût fallu relire ce que j'écrivais, j'aurais peut-être faibli. J'allais toujours devant moi. À présent, que vous dirais-je? Un homme est venu un soir d'été chez moi dans ma petite chambre de la rue de la Harpe. Il m'a donné quelques lignes à mettre en ordre. Ces lignes étaient des injures. Je lui dis de repasser. J'en avais beaucoup de commandes. Je l'oubliais pour d'autres. Il revint. L'infâme biographie fut transcrite par moi, comme un thème par un écolier au collège. Ce même jour, il m'en souvient, je m'applaudissais d'avoir de quoi payer quelques dettes. J'étais radieux, content. Ce nom de femme noble, je l'avais écrit sous la dictée. Ce pamphlet, je l'avais composé sans haine. Instrument d'un dépit, je ne me doutais même pas de ce dépit. J'étais le domestique d'une idée, j'assemblais des mots et des lettres au hasard. Hideuse insouciance qui me faisait croire au roman jusque dans la vérité. Je n'étais plus un homme, j'étais une presse. Ma misère avait enfin ses jours de soleil. Mon escalier, haut et dur, s'abaissa bientôt. J'obtins quelques renoms et quelques fortunes, grâce à des vers lancés dans le monde. Mon humeur avait changé. J'avais réfléchi et j'étais devenu triste. Il me semblait qu'un écrit de la nature de ceux que je m'étais complu à accepter était une tâche bien lourde. Je me repentais presque. J'allais m'éloigner et regagner la province quand votre mère, ignorante de tout ceci, m'attira dans son château. Elle m'écrivait comme à un homme de lettres que l'on invite, rien de plus.
Cette invitation me parut banale. J'en fus enchanté pour mes remords. Une seconde lettre me fut adressée. Celle-ci était pressante. Son ton affectueux me parut un poids horrible. J'allais voir une femme que j'avais insultée mortellement et qui ignorait mon crime. Il me faudrait lui avouer tout, me jeter à ses pieds, comme me voilà au vôtre. Ou bien jouer un rôle hypocrite, un rôle 100 fois plus vil et plus menteur. Ma fierté me fit pourtant prendre ce dernier parti. Je passerai sous silence l'accueil hospitalier que je reçus de madame votre mère. Ses bontés pour moi. Son obstination généreuse à me placer toujours au-dessus de mon sort. Sa protection délicate, qui m'épargnait toujours le poids du bienfait. Elle ne soupçonnait en moi qu'un homme malheureux, tandis que j'étais un misérable. Elle semblait prendre à tâche de me combler. Sa générosité m'accablait. Pour la première fois, je commis, monsieur, le supplice de la conscience. Je rougissais et pâlissais tour à tour devant cet ange de vertu. 20 fois je fus prêt à partir, à lui dévoiler par écrit ce secret odieux. L'air que je respirais chez elle était devenu un poison pour moi. Je savais que la plupart de ces misérables biographies avaient été brûlées dans un incendie, survenu chez l'homme chargé de les faire écouler dans le public, avide alors de scandales de cour et d'anecdotes impudentes. Mais je n'ignorais pas non plus que ce parent si cruellement lâche en avait infecté les meilleures maisons. Parfois, il me prenait envie de m'enquérir du lieu où il se cachait, mais l'assiduité de ses recherches pouvait appeler l'attention sur moi, et j'avais assez d'ennemis pour craindre la malignité des conjectures. Sur ces entrefaites, je fis la connaissance d'une jeune personne qu'une de mes parentes, directrice d'un pensionnat à Passy, avait prise pour sous-maîtresse. C'était dans un de mes voyages loin du château de madame votre mère, ce château où j'étais arrivé tout d'un coup à un degré de considération refusé à des hommes qui valaient mieux que moi, et dont le contact ne faisait que me rendre plus vil à mes propres yeux. Je ne me doutais guère que l'amour pût jamais rentrer dans mon cœur usé et flétri. Il y avait longtemps que j'avais dit adieu aux illusions de mon passé. Anna, jeune et belle créature, m'apparut comme un ange de rédemption. Elle rouvrit mon âme à toutes les joies comme à toutes les espérances. Je me prosternais presque devant elle quand je la vis. C'était un premier rayon dans ma nuit. Je compris que je pourrais encore vivre. Je la demandai en mariage à cette parente. On me la refusa. J'insistais. Je ne pus rien obtenir. Trop vieux pour lui plaire. Je ne désespérais pas cependant lorsque s'offrit une occasion de la sauver. Un jeune lord, qui n'avait fait que l'entrevoir au pensionnat, avait résolu de l'enlever. Il l'abusait par une fausse promesse d'alliance, fiancé lui-même à la sœur du duc des Y, à laquelle il devait s'unir dans 2 mois. Comme il ne voulait pas se départir de la conquête d'Anna, il trouva plus simple de l'enlever. J'avais tout prévu, et je fis échouer son projet. Celle que j'arrachais ainsi à la honte m'en sut gré. Elle oublia que l'homme qui la sauvait n'avait rien de la jeunesse de son ravisseur, que les rides l'avaient atteint, et qu'il n'était peut-être d'ailleurs vertueux que par calcul d'égoïsme. Mais j'aimais Anna, je l'aimais, monsieur. Après ces horribles bouleversements, il me fallait bien un peu de calme. Après la poussière du chemin, la fraîcheur de la source. Ma femme ramena bientôt chez moi la croyance à des jours meilleurs. L'amour du bon et du beau. Grâce à elle, j'arrivais, par le repentir, à la vertu. Brillante étoile qui me montrait la route. Piscine salutaire qui lavait toutes mes souillures. Mon ambition désormais était de rentrer dans l'obscurité. Les souvenirs littéraires m'importunaient. Je ne songeais plus bientôt qu'à une chose, à me retirer du bruit et à cultiver en paix cet humble jardin. Je me fis une vie nouvelle. Le matin, j'allais chez vous lorsque vous m'y attiriez. Le soir, je rentrais dans cet intérieur où dormait toute ma joie. Je renaissais auprès d'Anna à toutes mes illusions. Mon estime remplaçait pour moi celle de ma propre conscience. Je n'étais plus un homme brillant, dangereux par son esprit, un de ces écrivains dont les épigrammes font la gloire. Je ne raturais plus des mots. J'étais un botaniste retiré dans mes étiquettes de plantes. Je ne voyais plus qu'elle et vous. Par vous, monsieur, je recevais du moins quelques nouvelles de ma protectrice. Par vous, je me confirmais dans l'idée qu'elle ignorait toujours cette horrible histoire. Jusque-là, Dieu lui-même m'avait pris en pitié. Maintenant, qu'avez-vous fait?
et qui m'eût dit que ce serait au milieu de ces paisibles loisirs que vous viendriez me demander compte de ma faute. Mais vous êtes dans votre droit. Parlez. Qu'exigez-vous? Je suis prêt. Par pitié seulement, n'en dites rien à Anna.
Rassurez-vous, monsieur. C'est assez de vous livrer à votre conscience. Qu'elle soit à la fois votre juge et votre bourreau. Je ne vous demanderai pas même de rétractation, puisqu'en tout ceci vous ne fûtes qu'un instrument, et que votre instigateur, le marquis de C, n'est plus. M. Berthoin poussa un cri de surprise, Georges reprit. S'il n'est plus, vous demeurez comme exemple de cette éternelle justice des sociétés qui se vengent. L'arme terrible dont vous avez fait usage retombe, vous le voyez, de tout son poids sur votre tête, quand vous y pensiez le moins. On ne touche pas impunément à cette hache. Tôt ou tard, on récolte l'ivraie dans le champ ensemencé d'ivraie. Le déclin d'une vie comme la vôtre ne pouvait pas être calme. Il est un temps donné où Dieu et la société vous demandent des comptes. Vieillard, étiez-vous prêt à rendre les vôtres? Qui vous condamnait à cet infâme métier, digne au plus de la paresse d'un méchant? Quel instinct vous disait d'assassiner en riant et de distiller le poison sans savoir seulement quelle lèvre irait se frotter au vase? Ma mère! Ah, monsieur, vous lui auriez donné le coup de la mort par ses mensonges. La vie d'une mère est dans l'honneur de son fils, dans les sentiments de vénération qu'elle lègue à toute sa race. Et qui vous dit, imprudent coupable, que la calomnie n'ait pas entamé cette pure vertu? Qui vous assure de l'oubli complet de cette œuvre infâme? Dans 20 ans, peut-être. Et lorsque mes cheveux auront blanchi comme les vôtres, ce pamphlet ne pourra-t-il se voir ressuscité? Ce phénix honteux ne renaîtra-t-il pas de sa cendre? Mon sang bouillonne rien qu'à cette idée. Songez, monsieur, que l'avantage d'être noble se paye par tant d'ennemis. La calomnie est une monnaie qui a toujours son cours, frappée à l'encontre de vertus nobles et hautes. Souvent, on la croit morte. Et la voilà qui revient bourdonner à vos oreilles plus furieuse que jamais, cette guêpe qui pique jusqu'à la face des morts. Allez donc demander pardon à un tribunal humain d'un crime qui peut vous survivre. Espérez miséricorde lorsque votre poignard fut sans merci. La voix de Georges allait s'éteignant comme un glas funèbre. Le professeur n'osait lever les yeux, ni implorer son pardon. Il demeurait sous le poids de cette sainte colère, de cette justice filiale qui lui avait fait ployer le genou. Georges remarqua de grosses larmes qui se faisaient jour à travers les cils gris de M. Berthoin. Le professeur tournait le dos à la cheminée et considérait le portrait de sa femme, suspendu entre les deux croisées du cabinet. Dans certaines douleurs, il y a souvent une grande noblesse. La douleur de cet homme émut Georges, parce que M. Berthoin avait fait constamment bon marché de lui-même pour ne s'inquiéter que d'Anna. Georges en venait à se dire que M. Berthoin était peut-être assez puni en voyant cette honte infligée à son sentiment le plus secret et le plus intime. Comment oserait-il aborder à l'avenir cette femme qui avait uni ses jeunes années aux siennes? Une âme fière et honnête comme celle de Georges repoussait toute idée de réconciliation avec ce coupable. Mais il avait pitié de ce vieillard, voué désormais au mépris de cette compagne, qu'elle n'avait entendu assez pour soupçonner l'étendue de sa faute. En amour, il n'y a guère d'intéressant que ce qui est fou. La folie de M. Berthoin remuait l'âme de Georges. Les hommes corrompus par leur état dans la société arrivent à la vieillesse avec l'empreinte de leurs vices. La vieillesse de M. Berthoin n'offrait qu'une stricte probité de cœur. Il aimait sa femme d'un amour profond. Il paraissait devoir se tuer le jour où il la perdrait. Après avoir examiné cet homme quelques minutes en silence, Georges prit violemment son chapeau, qu'il enfonça sur ses yeux et sortit. Une fois seul, M. Berthoin courut à la porte de la salle voisine. Il appela sa femme. Ne la trouvant pas dans cette pièce, il en traversa deux autres. Elle n'y était pas. Il monta au premier étage et au second sans la rencontrer. Alors il redescendit dans le verger, où l'ombre du soir commençait à s'étendre, et courut droit à un petit bosquet, son abri ordinaire contre les chaleurs d'été. Le banc était vide, un bouvreuil y sautillait gaiement. Le tabouret de canne qui recevait les petits pieds d'Anna demeurait encore posé sous la table en marbre du bosquet.
M. Berthoin reprit le chemin de sa maison et retourna vers la pièce attenant au cabinet. Il commençait à concevoir de vives inquiétudes. Son regard se porta machinalement sur le rebord de la fenêtre. Il y trouva une lettre cachetée de noir. Il se hâta de l'ouvrir et lut ce qui suit. « Adieu. Adieu éternel à vous qui pourtant m'avez sauvé. J'étais près de cette porte, monsieur. C'est de là que j'ai tout entendu. Je ne juge pas votre action, mais je ne pourrai plus vous aimer après un pareil aveu. Et comme mon amour n'a jamais été que de l'estime, faute de ce bien à vous donner, je me retire. Adieu, monsieur. Ne recherchez pas mes traces. C'est dans l'asile d'où vous m'avez tiré que je rentre. C'est là que je prierai Dieu pour vous. Près de vous, je n'aurais pas connu l'amour, mais la pitié. La mienne vous est bien acquise. Adieu pour toujours. Nos liens n'étaient pas plus faits pour vous que pour moi. Anna. » Le trouble où cette lettre inattendue jeta le professeur ne saurait se rendre. Il tomba inanimé sur le parquet. Ses jambes lui refusaient tout service. Il voyait un abîme entre cette possession de plusieurs années et cette perte soudaine. Comme un homme dont la chaîne se briserait violemment, il demeurait encore sous l'impression galvanique de cette secousse, l'œil baigné de larmes et ne pouvant s'arrêter à aucun projet. Enfin, il eut la force de sonner et son jardinier le porta jusqu'à son lit. Ce fut un triste réveil que celui de M. Berthoin. Le soleil dardait à peine ses rayons à travers les persiennes qu'il se hâtait de fuir cette maison naguère si riante pour se diriger vers Passy. Dans la voiture publique qui devait l'y conduire, montèrent deux Ursulines. En tout autre instant, M. Berthoin eut remarqué leur jeunesse et leur beauté. Elles avaient 30 ans à peine, un air de simplicité charmante, les mains blanches, le parler timide. Cette voiture se trouvait aussi embaumée dès l'abord par les deux sœurs. La plus jeune portait un livre d'office, l'autre un petit paquet contenant sans doute des hardes. M. Berthoin n'y fit aucune attention et se hasarda sur l'impériale malgré son âge. Le trajet fut court, mais trop long, cette fois pour l'impatience de M. Berthoin, qui se rendait à ce pensionnat de Passy, dirigé jadis par une de ses parentes, et qui avait été vendu à d'autres acquéreurs depuis 3 ans. Du plus loin que le professeur aperçut les peupliers suisses du jardin qui s'élevaient en amphithéâtre, près du pont de Iéna, un soupir s'échappa de sa poitrine. C'était en ce lieu qu'il avait pour la première fois entrevu Anna. Depuis longtemps, il n'était pas revenu sous ses ombrages. Il les évitait presque, comme s'ils eussent dû le faire souvenir qu'il n'était plus jeune. À quelques pas de la grille, il demanda au conducteur ce que signifiait la croix noire qui la surmontait. « Cela veut dire, monsieur, que c'est à l'heure qu'il est, un joli couvent d'Ursuline. Regardez plutôt, en voici qui traversent le jardin et descendent les escaliers pour venir au-devant des deux sœurs que je leur amène. » Un nuage s'étendit sur les yeux du professeur. Il venait de demander à cet homme le nom des deux novices, et sur la feuille de départ, il avait lu le nom d'Anna. « Arrêtez !» cria M. Berthoin. Mais le marchepied s'était déroulé déjà, et de ce marchepied s'étaient élancés les deux novices, escortés de l'économe de la maison qui avait tourné lui-même le bouton de la voiture. Le malheureux vieillard ne put reconnaître Anna qu'au moment même où la grille se refermait sur elle. Le portier en tirait les verrous en grande hâte. Dans mes rares promenades au jardin des plantes, il me souvient d'un homme assez bizarrement vêtu qui se tenait au soleil devant la loge des tigres. Il souriait d'un air triste au gardien, quand celui-ci venait l'avertir qu'il était temps de se retirer. Renfermé plusieurs mois dans une maison de fous dirigée par le docteur voisin à Vambre, il en était sorti sous la caution d'un vieux jardinier qui l'avait jadis servi et qui maintenant était devenu son guide. Ce jardinier lui lisait ses lettres, car le vieillard était à demi aveugle et ne sortait qu'avec un large garde-vue aussi sale et aussi huileux que celui d'une lampe. J'eus une fois la curiosité de m'approcher de lui et de le contempler de près. C'était une véritable ruine. Comme on fermait les grilles en ce moment, il venait de hâter le pas. Je le suivis par les quais jusque vers le pont Saint-Michel. Arrivé à l'un de ces parapets qu'encombrent les étalages des bouquinistes, il promena sa main ridée, avec le tact distinctif des aveugles, sur quelques brochures poudreuses. Ayant saisi une liasse ficelée dans le format IN18, il la jeta précipitamment dans l'eau.
Le bouquiniste s'emporta. L'homme tira de son gousset une pièce de 5 francs qui le fit taire. Il paraissait ému comme après un élan de colère ou de joie. Le jardinier, le voyant près de faiblir, héla de la voix un fiacre qui passait et l'y fit monter. Les lueurs du soleil couchant éclairaient alors la scène. La liasse y surnagea d'abord, puis ne tarda pas à s'y abîmer. Le vieillard avait levé la glace de fiacre et regardait le fleuve avidement.
« Voilà un singulier bibliophile, » soupira l'étalagiste.
« Vous n'y êtes pas, voisin, » lui dit un autre.
« Ce sera plutôt quelque auteur furieux d'avoir trouvé son édition entière sur les quais. »
Ainsi s'achève un pamphlet par Roger de Beauvoir.